les jardinières.
Chers lève-tôt, soyez les bienvenus chez les jardinières. Jusqu'à 8h, nous allons prendre soin de vos espaces verts. Bonjour Steve.
Bonjour à toutes les créatures de l'espace vert.
Et pour répondre à nos questions jardinage, ce matin nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Et merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Encore une fois, soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Et pour débuter les jardinières, on va parler un peu des fruits d'automne qui arrivent gentiment à maturité. Pommes, poires, coings. Jean-Pierre, est-ce que la récolte de cette année s'annonce plutôt bonne ou pas du tout?
Non, alors on a des carrés, des vergers qui se sont très bien comportés durant cet été malgré les canicules qu'on a eues. Il y a une bonne mise à fruits dans ce qui est des arbres à pépins, pommes et poires évidemment, le cognassier a passablement donné. Il y a quand même des contrastes selon les espaces donnés dans le verger, ça veut dire vous avez des parties de contrées qui sont super garnies et puis d'autres qui se sont un peu dégarnies. Ça provient du froid printanier qu'on a vu certaines fois sur les arbres fruitiers qui étaient en fleurs. Et puis bien sûr, ça péjore cette mise à fruit. Mais non, en général, cette année, elle a été plutôt généreuse pour tout ce qui était des arbres fruitiers, y compris damasides, mirabelles et cerises.
Alors, on tend vers des étés de plus en plus chauds. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place maintenant pour aider nos fruitiers, justement?
Non, alors on peut pas mettre grand-chose en place pour se prévenir des futurs. Ce qu'on peut quand même faire, c'est se dire que si on va faire une potation cet automne ou durant l'hiver, le mieux est de la mettre en place très rapidement durant l'automne parce qu'on sait que le terrain se va mettre en place relativement bien durant l'hiver par le froid, le gel, la neige, la pluie qu'on aura. Et puis si par hasard on avait de nouveau un de ces printemps qui était très sec, eh bien on garantirait une reprise optimum des arbres fruitiers qui seront mis en place. D'autant plus que c'est des plantations qui se font systématiquement racines nues. Et puis, par le fait, eh bien, le végétal doit vraiment se mettre en place dans le sol. Donc, une plantation hâtive est vraiment conseillée pour tous ceux qui souhaitent une plantation cet automne. Après, pour les grands végétaux, non, on peut, bien sûr, on dit lors des tailles qu'on a une taille d'entretien qui est donnée. Alors, à l'évidence, on limite aussi les grands volumes feuillus qu'on peut avoir sur ces fruitiers, ce qui va limiter les évaporations futures si on a des étés très caniculaires. Mais en tous les cas, on ne peut pas prendre beaucoup plus de mesures que tout ça.
Et puis rapidement, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on fait au potager ce week-end?
Oh ben bien de la récolte, il y a encore passablement de choses à récolter. On peut quand même se mettre en planter les oignons de printemps, on a encore des salades d'hiver qu'on peut mettre en place, et puis préparer les carreaux pour une hibernation correcte avec soit un semis de moutarde ou de légumineuses pour enrichir les sols, et puis préparer justement le sol futur du printemps.
Merci Jean-Pierre, vous êtes avec nous jusqu'à 8h, en plus de vos bons conseils, vous allez aussi répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices. Toujours trois possibilités de poser vos questions, vous pouvez passer par le téléphone, nous appeler en direct et pour parler directement avec notre invité Jean-Pierre en composant le 0901 70 20 20, 0901 70 20 20, 36 centimes la minute. Il y a également un formulaire disponible en ligne sur notre site internet sous l'onglet émissions questions jardinières. Et puis vous pourriez envoyer également un SMS en mettant bien jardin au début de votre message, un espace, votre question, votre petit nom, tout ça au 939.
Et on se retrouve dans quelques minutes. Ce matin, Jean-Pierre, vous allez nous parler de l'entretien des surfaces carrossables. Pavés, graviers ou encore terrasses en bois n'auront plus de secret pour personne.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, nous allons parler des surfaces dures et mi-dures, c'est-à-dire de pavés, de graviers ou encore de terrasses en bois. Et pour se plonger dans le sujet, on va commencer par les allées de pavés. Pour avoir une belle allée de pavés, Jean-Pierre, est-ce que c'est important de l'entretenir souvent? Quel rythme ou alors juste un petit coup de balai, ça suffit?
Oui, alors tout ce qui est pavé, bien sûr, s'entretient. Maintenant, à voir à quelle cadence vous le souhaitez vous-même. Il y a des personnes qui adorent avoir un petit peu de végétation qui pousse entre, parce que c'est quelque chose qui se gère et puis qui ne se développe pas beaucoup. Et puis d'autres clients ou personnes souhaitent vraiment avoir un pavage vraiment très ripolliné, propre, nettoyé une fois par printemps, et puis dans lesquels on ne trouve aucune une herbe indésirable ou éléments comme ça.
Mais si nos pavés sont très sales, on peut aussi avoir recours à des produits de type détergent et y aller carrément aux produits chimiques.
Non, alors à l'évidence pas. On sait que tout ce qui est de surface pavée, dallage, macadam et autres ne peuvent pas être traités avec des produits issus du commerce. Par contre, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est les nettoyer avec une machine à pression ou une machine à vapeur.
Celles qui sont jaunes un peu ?
Ça dépend des marques.
Exact. Avec ce moyen-là, eh bien, si vous faites un nettoyage printanier, vous allez nettoyer un petit peu les interstices qui se trouvent entre les pavés, ce qui permet les infiltrations des eaux au niveau des pluies. Et puis, si vous avez moins de limon dans ces espaces, à l'évidence, les herbes indésirables ne vont pas s'y développer si facilement que cela. Et puis, par contre, ce qu'on peut faire, on trouve quand même dans le commerce des produits qui viennent laquer le pavé, qui sont permis. Alors, bien sûr, c'est un hydrofuge, comme on l'appelle. C'est un produit qui va se caser dans les pores des pavés. On peut aussi mettre ça sur les dallages ou autres. Et puis, ça va éviter que la saleté s'y dépose et puis s'incruste dedans. Par contre, les mesures à prendre lors du nettoyage des pavés avec une machine à pression. Alors, à l'évidence, il faut surtout pas les nettoyer avec une buse rotative, ça c'est quelque chose qui tourne et puis qui est très très violent et puis qui va vous décaper carrément le lait de ciment que vous avez sur votre pavé, puis va vous dégrader votre pavé. Et puis la buse qui est à l'horizontale non plus n'est pas très intéressante. Par contre, on trouve dans le commerce des brosses qui sont sous cloche et puis qui sont vraiment adaptées à un nettoyage parfait. Et puis en plus, en rapidité, vous allez y gagner parce que c'est très très rapide avec ces brosses conçues pour ces nettoyages de surface.
Alors là, on a parlé un peu du nettoyage de printemps. Là, c'est l'hiver qui va arriver avec le gel, la neige. Est-ce qu'il faut préparer ces pavés pour la saison froide ?
Non, alors pour l'hiver, évidemment qu'on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire en fait. Ce que l'on sait bien sûr, c'est des surfaces qui sont posées sur des lits de groisse, de gravillon, et puis malgré le gel et dégel, eh bien, on sait très bien que ces pavés peuvent fluctuer en altitude d'un demi centimètre à un centimètre, parce que le gel bien sûr va faire gorger le sol et augmenter. Mais au printemps, ils vont se remettre en place et vous n'allez pas voir ce mouvement du sol. Par contre, pour l'hiver, non. Même au niveau des entretiens durant l'hiver avec la neige. Alors bien sûr, si vous avez des pavés qui ont été posés un peu à la va-vite et puis qui sont pas tous de bonne altitude, ça va poser problème si vous avez une lame à neige ou une pelle et puis que vous les nettoyez ces surfaces. Donc là, faut peut-être prendre cette mesure, mais plutôt durant l'été, de les reposer, de les ajuster. Sinon, pour le reste, durant l'hiver, c'est une surface qui pose pas de soucis.
Les espaces carrossables, on en parle encore dans quelques minutes avec notre invité. Restez avec nous, on va parler gravier, on va aussi parler bois.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières s'occupent de vos surfaces carrossables en compagnie de Jean-Pierre Ribaud. Alors, il y a quelques minutes, on a parlé de pavés. On va parler d'un autre sol carrossable avec vous, Jean-Pierre. Ce sont les graviers. Pour mettre en place un chemin de gravier, est-ce qu'il faut mettre un textile ou une bâche dessous, justement, pour empêcher que les petites herbes poussent à travers des cailloux ?
Alors, on ne met pas de géotextile pour éviter les indésirables sur les chemins en gravier, parce que le gravier, si vous le posez sur un tapis plutôt lisse, eh bien, il n'aura aucune stabilité, et puis de marcher sur ce gravier sera super désagréable. Donc, on peut pas prendre cette mesure-là dans le cadre du chemin en gravier. Par contre, ce qu'on fait volontiers, on trouve maintenant des géotextiles qui font une épaisseur de 2 cm, 2 cm et demi, qui, une fois déroulé sur le terrain, sur un lit de groisse que vous aurez au préalable compacté, hein, il faut quand même que votre sous-sol soit relativement dur, mais surtout pas en béton non plus. On pourrait pas poser des graviers sur des surfaces en béton ou sur des surfaces en macadam parce que, eh bien, de marcher dessus, ils peuvent pas tenir sur ces surfaces lisses et puis ce sera super désagréable et pas du tout pratique. Mais sur un lit de groisse, justement, avec un de ces géotextiles que vous déroulez, mais qui est vraiment gorgé d'éléments qui peuvent permettre l'absorption de ce gravier dedans, eh bien, quand vous aurez mis votre gravier sur ce substrat-là, sur ce géotextile, eh bien, il y aura une certaine rigidité qui sera donnée, et puis ce sera super pratique pour l'utilisation du chemin. Après, il y a quand même encore une autre mesure à prendre, ça dépend du gravier que vous allez utiliser. Si vous prenez un concassis, ce qu'on trouve ici dans nos carrières, mais on trouve aussi dans les couleurs noires, dans les couleurs beige, du moment qu'il est concassé, vous pouvez en mettre 2, 3, 4 cm d'épaisseur, ce sera toujours facile de marcher dessus parce qu'il a une certaine stabilité. Par contre, si vous mettez un gravier rond, du siliceux qu'on trouve d'Alsace, qui provient justement des surfaces des produits pour les bétons, si vous en mettez trop en épaisseur, là c'est quelque chose de super désagréable de nouveau à l'utilisation, parce que quand vous marchez, vous avancez pas, vous enfoncez dans ce gravier, et puis justement il faut en mettre que 2 cm et demi maximum d'épaisseur pour que ce soit super joli et intéressant à l'utilisation.
Pour revenir au textile qu'on pourrait mettre sous ce gravier, est-ce qu'il est périssable et puis qu'il faut le changer au bout de je sais pas combien de temps ?
Non, à l'évidence pas, c'est quelque chose qui est malheureusement plastique, qui tient très très bien dans le temps, et puis justement qui évite d'avoir ces graviers qui se poussent sur la droite, sur la gauche, selon l'utilisation du chemin que vous ferez. Après, je dois dire que c'est quand même des surfaces qui sont super faciles d'entretien, parce que on les lave pas, on les nettoie pas, il n'y a pas à les balayer, puis je trouve que l'aspect est toujours très très joli.
Merci Jean-Pierre. Et puis en plus, sur le gravier, on peut jouer à la pétanque. C'est important juste de le dire. On va revenir après la pause. On va parler d'autres matériaux. On va parler de bois, de chemin en bois ou de terrasse en bois. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin et jusqu'à 8h, vous avez la possibilité de poser vos questions et c'est notre invité qui va y répondre. Ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves, qui prendra le temps de vous répondre.
Et on vous rappelle les trois possibilités pour nous joindre. Vous avez le téléphone si vous voulez nous parler en direct, 0901 70 20 20. Le SMS, il suffit de nous envoyer un message au 939 en mettant bien la mention « jardin » au début de votre texto. Et par formulaire sur notre site internet avec la possibilité là aussi de joindre une photo. C'est sous l'onglet « émission questions jardinières ».
Ce matin, nous avons parlé des surfaces carrossables, on a parlé déjà des pavés et des graviers. On va continuer un peu sur cette discussion avec vous, Jean-Pierre. Si à la place des petits cailloux, on préfère le bois, est-ce qu'on peut imaginer par exemple une allée en copeaux de bois ?
Alors oui, on pourrait l'imaginer, mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui va être pérenne dans le temps, parce que le bois va de toute façon se décomposer très vite, et puis va vous produire une espèce de tapis d'humus qui va se déposer sur la groise ou le substrat que vous aurez en dessous, et puis ce sera plutôt une future culture d'herbes indésirables, et puis d'arriver de problèmes sur votre surface. Je ne suis pas très sûr que ça puisse se réaliser comme ça, avec un mulchi de copeaux pour une surface carrossable. Ça peut peut-être se faire pour un espace d'été où vous avez une petite terrasse, trois chaises, une table, et puis que vous voulez être hors humidité et puis avoir quelque chose de propre sous les pieds. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps parce que le copeau se décompose très vite.
Alors, on peut aussi avoir des terrasses en bois. Jean-Pierre, le bois, c'est un matériau vivant. Est-ce que ça sous-entend que ce genre de terrasse demande plus d'entretien ?
Alors oui, un peu bien sûr, peut-être un peu moins au niveau des herbages parce que vous aurez rarement des mauvaises herbes qui vont arriver dans ces structures si ça a été bien mis en place au démarrage. Il faut aussi savoir que c'est évidemment des surfaces sur lesquelles on peut se balader à pied, mais en tous les cas pas avec une voiture ou un système motorisé, parce que le bois ou les reconstitutions, les techs comme on dit, c'est pas des surfaces qui supportent le poids. Après, au niveau des entretiens de ces espaces, eh bien, si ça a été bien mis en place au démarrage, vous aurez un peu d'entretien sur les surfaces aériennes, parce que le bois est justement quelque chose de vivant qui peut un peu se décomposer, devenir rugueux, et puis peut-être là, de temps en temps, on va poncer une échine qui va se surélever de la surface. Il faut aussi savoir que quand on fait des surfaces de ce genre, alors on prend du bois qui aura été traité, soit une imprégnation autoclave avec un produit sel qu'on trouve dans le commerce, mais qui peut être fait que par les vendeurs, ou avec une déshydratation comme on peut trouver ici dans la région, une entreprise de Glovelier qui produit des super produits de ce genre. Et puis si vous avez des composites, eh bien il y a beaucoup moins d'entretien parce que c'est du composite qui va pas se détériorer dans le temps. Il y a juste des mises en place qu'il faut être très juste, parce que si vous mettez le dessous, les longues greens. Si vous avez des espaces un peu trop espacés, c'est des surfaces qui vont un peu plonger dans le temps. Et puis c'est aussi des surfaces qu'il faut rappeler, on peut pas les laver avec une machine à pression, parce que évidemment le bois se décompose très vite avec une injection d'eau. Et puis le composite également, c'est pas, on peut les nettoyer avec une brosse, on peut les nettoyer avec un jet standard, mais en tout cas pas des machines à pression.
Et puis une fois qu'on les a bien nettoyés, ces terrasses en bois, est-ce qu'on doit les huiler ?
Non, alors on peut pas les huiler comme vous le dites, clairement. On peut changer un peu les couleurs, en tout cas sur ce qui est des surfaces en bois, mais pas le teck. Le teck, c'est quelque chose qui va pas absorber les produits que vous voulez, que vous épandrez par-dessus pour lui donner une autre tonalité. Par contre, le bois, vous pouvez les crémer avec un blanc neige ou quelque chose comme ça, très clair. Alors un produit à l'eau, bien sûr, jamais des produits au niveau nature qui puissent poser problème au niveau de pollution et autres. Et puis là, si vous prenez justement un blanc neige et crémé, vous pouvez vraiment changer la couleur de votre terrasse. Alors on sait très bien que ça va tenir une année, deux ans, peut-être trois. Ce sera pas à longue échéance, c'est quelque chose qui s'entretient, comme vous avez dit.
Si on est un peu fainéant, il y a des surfaces à conseiller plus que d'autres. C'est quoi le meilleur matériau ?
Alors, je dirais que la tendance maintenant, c'est vraiment les grès céramiques. C'est ces grandes cattelles qu'on trouve, qu'on peut poser dans les aménagements extérieurs. Ça se nettoie très facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de les pores sont très fermés, c'est très très lisse. Et puis, alors c'est très lourd à la pose. Il y a vraiment les mesures à mettre en place lors de la pose. On a des distanceurs qu'il faut poser pour éviter les frottements parce que ça reste des cattelles qui peuvent toujours, je vais pas dire bouger, mais enfin on sent quand on marche dessus qu'elles sont pas forcément super stables comme on aurait un pavé, mais c'est pas désagréable non plus. Et puis au niveau de l'entretien, hormis de temps en temps une petite mauvaise herbe qui peut arriver entre deux, puis que vous arrachez facilement parce que le dessous de ce dallage est un 4-8, pas un 3-6, hein, faut être précis aussi si vous avez envie d'en réaliser ces dallages. On met un 4-8 parce qu'il est un peu plus grand et puis la stabilité elle est nettement donnée. Et puis là-dedans, eh bien, l'arrachage des indésirables est super facile.
Donc 4-8, c'est la taille d'une pierre. 4
c'est
mètres,
la graine, c'est
4
la... mètres non, fois non, 8 non, 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 on parle de millimètres. À l'évidence, pas, non. Non, non, on parle de millimètres, mais ça... Non, non, millimètres, et puis vous trouvez ça dans le commerce, dans les fournisseurs de nos produits, des voilà. Produits de carrière.
Donc, on vous rappelle, hein, demander à un professionnel pour installer une terrasse chez vous et pas
en tout
à
cas,
Mylène.
Des conseils à l'évidence.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On va se retrouver dans quelques instants pour répondre aux questions de nos auditeurs.
7h, 8h, les jardinières.
C'est un plaisir d'être avec vous pour parler jardinage. On a parlé espace carrossable tout à l'heure avec notre invité Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Il est temps maintenant de s'intéresser à ce que vous nous avez soumis via les différents moyens pour nous joindre. Vos questions à vous.
Et des questions qu'on attend toujours par téléphone au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute et la chance de parler directement à Jean-Pierre. Vous avez aussi l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous envoyez ce petit message au 939, c'est sympa aussi si vous le signez, ou alors le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission, question aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Justement, on a reçu une photo d'horreur, Jean-Pierre, elle nous vient de Mathilde de Lignières. Bonjour, mon poirier a des trucs bizarres sur ses feuilles, qu'est-ce que c'est ? Faut-il traiter ? Si oui, comment ? Merci, bon week-end. Alors Jean-Pierre, si vous arrivez à nous décrire peut-être l'image qu'on a sous les yeux, qui nous fait tant peur, et puis à nous donner quelques solutions.
Bon, moi, je pense qu'il faut déjà tranquilliser Mathilde puis lui dire que ce n'est pas une photo d'horreur. Mais, mis à part ça, effectivement, elle a envoyé une photo de feuille de poirier sur laquelle on a de la rouille grillagée. C'est un champignon qui se développe durant l'été, qui est propagé par l'humidité, par l'atmosphère. Et puis, sa source, elle est prise sur les juniperus qui se trouvent aux abords de la parcelle du fruitier. Alors bien sûr, on peut traiter avec un fongicide, un produit qu'on peut trouver dans le commerce, mais la lutte est difficile parce que on sait que les champignons, le cycle de couverture avec un bon produit phytosanitaire, ce sera de 15 jours, 3 semaines. Et puis pour renouveler cette protection, eh bien il faudra réintervenir et puis réintervenir. et puis encore réintervenir. Donc, le mieux, ce serait s'il est possible de faire une lutte plutôt indirecte, en limitant vraiment les genévriers qui se trouvent dans le périmètre du verger de Mathilde. Et puis sinon, eh bien, si l'attaque, elle est plutôt raisonnée, ça veut dire quelques feuilles par-ci, par-là, qui attaquent le poirier, faut aussi savoir que c'est vraiment la rouille qui s'attaque qu'au poirier, puis pas au cognassier, puis pas au pommier. Donc, c'est propre au poirier, le phénomène. Si l'attaque elle est raisonnée et puis pas trop méchante, l'arbre lui-même ne va pas trop subir de dégâts par rapport à ça. Le fruit ne sera pas attaqué, c'est vraiment propre sur le feuillage qu'on a ces rhizomes qui se développent, ces taches et puis qui sont pas très jolies. Mais en tous les cas, l'arbre n'est pas en péril, la mise à fruit ne sera pas péjorée. Et puis après, comme j'ai dit, ben, si on peut faire quelque chose par rapport à ces juniperus, et puis sinon, eh bien survivre avec ce phénomène.
Donc c'est vraiment les plantes alentour qui ont contaminé l'arbre.
Oui, dans un rayon de 500 mètres, 1 km, quelque chose comme ça.
Ah,
c'est
quand même,
difficile de dire, oui. Le juniperus, c'est vraiment la plante hôte du spore de la rouille grillagée. Et puis là, on ne peut pas traiter, on ne peut pas intervenir, c'est propre au juniperus. Et puis ben, de temps en temps, ça se propage. Et puis le poirier est très réceptif à ce mycélium. Et puis ben, on a ces dégâts qui se présentent comme on a sur la photo.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces précisions. On a reçu une deuxième photo. Cette fois-ci, elle nous vient de Ludovic de Cernié qui nous dit « Bonjour, j'ai un potager en hauteur. Quand j'ai retourné la terre, j'ai trouvé plein de vers comme celui de la photo ci-jointe. Qu'est-ce que c'est et est-ce que mon potager risque quelque chose ?» Merci de votre réponse. Alors Jean-Pierre, on vous laisse décrire la photo à nouveau.
Oui, et bien sûr, sur la photo, il y a une grande larve blanche qui se présente, qui fait de l'ordre de 2 à 3 cm, et puis d'un diamètre d'un centimètre en tout cas. Alors bien sûr, c'est le ver blanc du hanneton, c'est un insecte qui pond, qui a un cycle de 3 ans dans le sol. Malheureusement, il faut le reconnaître que dans les jardins suspendus, comme on les appelle, qui viennent en quantité maintenant par chez nous, on a vraiment volontiers l'envie d'y mettre du terreau, du compost, une matière très très enrichie et puis gorgée d'humus. Et puis le hanneton se développe uniquement dans ce genre de substrat. C'est au même titre que si vous avez un vieux compost dans le coin de votre potager ou bien une plante dans un pot qui a quand même un peu d'humidité parce qu'il lui faut de l'humidité pour survivre. Eh bien, vous trouvez relativement facilement ces gros vers blancs de hanneton dans tout ce qui est terreau, substrat, compost et autres. Alors pour ce qui est du jardin de Ludovic qui est suspendu, si l'épaisseur de terre n'est pas trop épaisse, jusqu'à 30-35 cm, alors durant l'hiver, bien sûr, le dégât du gel, pour autant qu'on ait des hivers qui nous rappellent notre jeunesse, eh bien, il y aura une lutte automatique par le gel qui va le faire périr. Si vous avez une profondeur de substrat qui est plutôt de 80 cm ou 1 mètre, là, le ver blanc va arriver à descendre assez en profondeur pour passer l'hiver, revenir au printemps en surface, grappiller les racines des plantons que vous aurez mis en place, et puis lui, après, va s'épanouir dans l'été pour s'envoler. Et puis, bien sûr, votre potager n'aura plus grande culture. Donc, comment faire ? Soit une lutte manuelle, quand vous travaillez le sol, vous les trouvez, vous les prélevez, vous les évacuez. Et puis sinon, ben, vous trouvez un produit dans le commerce, un insecticide qu'on peut mettre en arrosage par-dessus la terre. Après, ça reste un insecticide qui n'est pas toujours super intéressant à travailler. Mais il n'y a pas 50 solutions. Soit vous avez une terre pas trop profonde, ce sera une lutte mécanique durant l'hiver par le froid. Soit une lutte manuelle lors du travail de la terre. Et puis sinon, alors, une intervention avec un chimique.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour toutes ces précisions. Et puis, bah, ça ne fait rien hein, si on a un hanneton sur la main. Il ne va pas nous mordre.
Un n'est pas grave.
Alors, ça va. Nous voilà rassurés.
Ça ne va même pas voler, alors ça va.
Alors, à ce stade-là, non, mais après, ça vole.
Mais pas très bien, les hannetons, en général. En tout cas, à ras du sol, ils ont un peu l'air bêtes. On se demande ce qu'ils font.
Merci, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite et la fin des jardinières.
Les jardinières.
Sa jardine avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste, propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. On va continuer de parcourir vos différentes questions.
Et on parlait ce matin des surfaces carrossables. On a justement une question qui nous parle de macadam. Jean-Pierre, une personne nous dit « Mon macadam est ouvert, comment puis-je le nettoyer ?»
Oui, alors ça arrive que de temps en temps sur les macadams qui sont vraiment au nord, qui sont posés dans un endroit plutôt ombragé, on ait des développements de lichens, de mousse dessus. Alors bien sûr, ça vient toujours aussi sur des vieux macadams qui n'ont pas été vraiment roulés ou qui deviennent graveleux dans le temps, et puis la mousse arrive à s'y accrocher et puis à s'y développer. Donc si vous avez une épaisseur de mousse conséquente, le mieux c'est quand même de la racler pour évacuer tout ce qui est de dépôts de poussière, de limon qui se compose avec cette mousse. Et puis après, la meilleure des luttes sur ces macadams, c'est d'ébouillanter la mousse avec de l'eau très chaude. Il faut en tout cas pas le faire avec du gaz, en tout cas pas avec du feu ou surtout pas avec une machine à pression, parce que la machine à pression, selon la machine, voulait arriver sur un vieux macadam à lui faire des trous. Donc pour entretenir du macadam, le mieux n'est de jamais le laver avec une machine à pression pour justement laisser ces pores fermés, ne pas avoir une surface trop granuleuse pour justement éviter les mauvaises herbes et puis les mousses de s'y accrocher. Et puis après, si vous avez de la mousse, c'est bien le gros, on le racle, et puis l'ébouillanter est super pratique. Après, on a aussi de temps en temps des indésirables qui peuvent arriver dans des macadam. Là, ça devient plus compliqué pour l'éradication parce que c'est souvent des pissenlits ou des liserons qui s'y développent. Il faut savoir que si une surface de macadam a été au préalable mise avec des rhizomes d'indésirables par-dessous, et bien avec les canicules de l'été, le macadam il vient plutôt mou, et puis les indésirables arrivent à le traverser. Et puis si ça arrive, vous avez un monticule de macadam qui se crée, et puis ces surfaces vertes apparaissent. Alors là, le mieux c'est carrément de casser cette butte de macadam, aller vraiment extraire la racine totale du végétal qui va poser problème, et puis retaconner avec un macadam.
On rappelle que tous ces bons conseils sont à réécouter bien sûr sur notre site. On a encore une question à vous poser, Jean-Pierre, sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut faire encore cette fin de semaine dans notre jardin ?
Alors, de toute façon, tout ce qui est récolte, comme on a dit, légumes et fruits, bien sûr, il faut engranger, encaver vraiment le maximum, ou pour tout ce qui est de transformation de fruits, de jus, eh bien, je pense que c'est le gros du travail pour la ménagère et puis les familles qui se mettent à faire des fruits et des jus et des choses comme ça. Et puis, dans les entretiens, pas grand chose pour le moment, les dernières tontes encore, bien sûr, un peu de désherbage, du nettoyage avant l'arrivée des grands travaux d'automne où on aura les feuilles et les tailles qui sont présentes.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre passage matinal et tous vos bons conseils. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribeau Paysages à Queuve. Très bon week-end.
Ben pareil à tout le monde. Bon week-end à tous. Merci.
Et à bientôt.
Merci. Les jardinières, c'est fini pour aujourd'hui. Nous serons de retour samedi prochain dès 7h. Nous recevrons Cathieu Racine, jardinière à Delémont. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions durant la semaine, soit en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières, ou par SMS en tapant jardin au début de votre message et envoyez ça au 939. Faites-vous plaisir. Bon week-end, Mylène.
Bon week-end, Steve. Et à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.